Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La communication visuelle avec des logiciels libres, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Emmanuel Réva intitulée « Le libre, c'est du gauchisme » et aussi la chronique d'Isabella Vanni sur le thème de l'éducation populaire et logiciels libres. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis le délégué général de l'April, je m'appelle Frédéric Couchet. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 1er juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors, nous allons commencer par le premier sujet, mais Isabella me signale un problème en régie, donc c'est pas ça, c'est pas très grave Isabella, on va changer simplement l'ordre d'intervention. Nous allons commencer, à moins que le téléphone fonctionne. Ça, c'est le problème des gauchistes. Hein. Je vous rappelle que normalement, nous attendons au téléphone Emmanuel Réva, dont la chronique est intitulée « Le libre, c'est du gauchisme ». Mais visiblement, le gauchisme, ça fonctionne pas très bien. Non, je crois qu'il nous entend maintenant. Salut Manu.
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, et toi?
Très bien. Donc, c'est la chronique « Itzik numérique » d'Emmanuel Réva, donc, qui est intitulée aujourd'hui « Le libre, c'est du gauchisme ». Excuse-moi. Et bien, écoute, je te laisse la parole.
Merci. Alors oui, ce qui suit n'engage que moi et mon ignorance. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Je suis un peu comme Jean, vous savez, c'est lui qui fait rien. Bien, alors je vais tenter de rappeler que les logiciels libres, c'est du gauchisme. Alors faut-il expliquer les logiciels libres à l'antenne de Libre à vous? Ben deux mots alors, hein. Les logiciels libres, c'est du gauchisme. Voilà. Bon, ok, on a un peu plus de mots. Les logiciels libres, c'est un peu comme, c'est un peu dans la continuité de la contre-culture des années 60. Je précise, 1960, au cas où vous écoutez ce podcast dans 100 ans, car le temps qu'il vous faudra pour écouter le temps de tout votre podcast en attente, ça sera peut-être 100 ans. Le libre porte les valeurs de liberté, d'égalité et d'adelphité. Note, adelphité, c'est fraternité sans l'aspect androcentriste. Ça vient du mot grec adelphos, donc comme dirait Serge Karamazov, aucun lien. Voici les quatre fameuses libertés des logiciels libres. Je veux dire, liberté ! Liberté numéro 1. La liberté d'utiliser un logiciel comme on veut. Liberté numéro 1, la liberté d'étudier le code source du logiciel et de pouvoir le modifier afin d'utiliser le logiciel comme on veut, voire liberté zéro. Il ne faut pas que le logiciel puisse exercer un pouvoir sur les utilisateurs. Liberté numéro 2, la liberté de distribuer le logiciel pour aider les autres. Parce que c'est bien d'aider les autres. En plus, grâce à la dématérialisation, on peut partager sans modération. Liberté numéro 3. La liberté de distribuer une version modifiée du logiciel aux autres, voire liberté 2. Pour cela, évidemment, il faut distribuer le code source pour garantir la liberté 0 aux autres, car le libre pense aux autres. Donc, je fais ce que je veux avec mes cheveux, mais aussi avec mon logiciel libre. Il n'y a pas de CGU restrictif qui légifère tout ce qu'on peut faire avec, et pas de restriction artificielle. C'est du naturel. Et oui, j'ai bien dit mon logiciel libre, car tous les logiciels libres sont à moi. Mais aussi à toi, à elle, à lui, à vous, à nous. C'est à tout le monde, y compris les dauphins et les chats. Mais surtout, les chats. Il y a des gens qui écrivent des logiciels libres, des gens qui les utilisent, mais il n'y a pas de gens qui ont des titres de propriété sur des logiciels libres. La propriété intellectuelle, c'est tellement 2000 vieux. Concrètement, les logiciels libres, c'est du savoir et de la culture partagée. C'est l'inverse de la recette secrète. Vous savez, on a tous participé à une conversation où il y a des personnes qui parlent d'une recette dont elles ne veulent pas divulguer leur secret. Je mets bien le mot « leur » entre guillemets, car c'est pas à eux. La recette est au mieux une adaptation d'une autre recette. Et au pire, et plus souvent, c'est exactement la recette de quelqu'un d'autre, mais appropriée. C'est de la colonisation du savoir. Non mais sérieux, il y a des gens qui voudraient breveter le fait d'ajouter un zeste de citron. Du coup, pour éviter les procès, je n'ajoute jamais de zeste de citron dans mes recettes. Mais qu'est-ce que ça enlève aux soi-disant propriétaires d'intellect que de savoir qu'une autre personne a accès au même logiciel ou à la même recette du gâteau de la grand-mère d'un Français sur quatre? L'obsession consistant à vouloir garder secret des découvertes du savoir, des méthodes ou de la culture, c'est du capitalisme effréné. Et à ce propos, un petit mot sur open source. Les logiciels libres, c'est pas du open source. Le mouvement open source est un peu comme l'ultralibéralisme. Ça part sur une base qui semble bien comme ça, mais qui pousse les idées sociales par les fenêtres. Sans vouloir faire de jeu de mots anglo-français basé sur le système d'exploitation symbole du capitalisme dégoulant, je veux dire Windows. Et ouais, j'avoue, c'était trop compliqué comme jeu de mots. Bref, l'open source, c'est du lavage verte, ou en français, du greenwashing, du libre. L'objectif de l'open source, c'est d'enlever la notion du partage inconditionnel et la promotion de l'égalité. En gros, de retirer les valeurs de gauche en redéfinissant le mot libre au point où il devient synonyme de Google. L'open source, c'est les logiciels libres pour les gens de droite qui se veulent modernes. En France, on dit centriste. C'est aussi bidon que la conception de l'écologie par les entreprises pétrolières, ou le sens du mot liberté dans la bouche de Jean-Marie, que ça soit Le Pen ou Bigard. Et je ne parle même pas des logiciels non libres, sauf pour dire que c'est un peu l'équivalent de l'automobiliste qui se gare à moitié sur une piste cyclable et l'autre moitié sur le trottoir, devant une bouche à incendie, lors d'un incendie, et qui active l'alarme tout en laissant une portée de chiots sur la banquette arrière en plein soleil, en plein été. Mais oui, c'est grave. C'est très grave. Mais il est possible que l'automobiliste prenne une petite amende, donc ça va. J'ai été séduit par le libre, non pas pour la technique, mais pour ses valeurs. Et ces valeurs séduisent d'autres gauchistes, comme dans le milieu de l'art, la musique, la vidéo, la littérature, mais aussi la science, la cuisine, la médecine, et d'autres qui comprennent que l'information veut être libre, et que c'est une bonne chose. D'ailleurs, on parle de copyleft en réponse au copyright. La copie, c'est la gauche, alors que la privatisation de l'espace, même numérique, est à droite. Alors, si vous êtes contre le contrôle d'autrui, et pour le partage, l'égalité, l'entraide, le progrès technique et social, l'émancipation, l'inclusion de tous les individus, vous êtes peut-être un libriste de gauche, et c'est un compliment.
Bah écoute, merci Manu. Donc c'était la chronique Itsik numérique d'Emmanuel Reva du site oga.fr, c'est mon site perso, donc je vais préciser que c'est hoga.fr. Et évidemment, nous ouvrons l'antenne au droit de réponse éventuel d'autres personnes qui voudraient répondre à cette chronique. Avant de te demander si tu as un mot de conclusion ou autre, je vais juste préciser que je t'encourage à écouter la pause musicale juste après, parce que tu reconnaîtras ta voix. Ça te rappellera une bande-annonce qu'on a fait pour la saison 4 de Libre à vous. Tu verras que c'est la même musique que celle que tu as joliment illustrée avec ta voix. Donc je t'encourage à l'écouter. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose après cette belle... Alors je te précise d'ailleurs que sur le salon web de la radio, et j'ai oublié de le préciser, hein, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio pour commenter l'émission ou même participer, hein, c'est donc sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, il y a plein de commentaires, mais bon, comme tu y es, tu les vois, donc ça parle de biogauchisme, ça parle de pipi capitalisme, donc ça se lâche un petit peu sur le salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Manu ?
Eh ben non, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour ce moment et cette chronique.
Eh ben écoute, comme le dirait l'autre, merci pour ce moment et peut-être au mois de juin ou début juillet pour la dernière de la saison, ou sinon ce sera à la rentrée de septembre. Bonne journée Manu.
Merci Fred.
Allez, à bientôt. On va faire une pause musicale. Alors je vous disais juste en fin de chronique d'Emmanuel Reva que en septembre 2020 nous avions fait deux bandes annonces, une bande annonce un petit peu classique et puis une bande annonce dans la série précédemment dans des séries télévisées où on revient sur le passé, où on annonce les nouveautés, et la voix de cette bande annonce que vous pourrez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm, c'est Emmanuel Reva, et la musique c'est Uncatchable par Alexandre Zelanoff qu'on va écouter. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Uncatchable par Alexander Zelanov, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY, qui vous permet donc la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste et d'indiquer la licence. Et comme je le disais juste avant la pause musicale, nous l'avons utilisé cette musique pour illustrer une bande-annonce, la bande-annonce de la saison 4 de Libre à vous, donc en septembre 2020, que vous retrouverez sur april.org et sur causecommune.fm. Et évidemment, en septembre 2021, il y aura de nouvelles bandes-annonces pour annoncer la saison 5. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la communication visuelle à l'aide de logiciels libres avec trois invités. Alors on va vérifier qu'ils sont tous les trois au téléphone. Donc nos invités, Antoine Bardelli. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Elisa de Castroguera. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Et Dimitri Robert. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Alors j'ai dit téléphone, c'est une grosse erreur de ma part. En fait, nos invités sont sur Mumble, hein, parce que vu les conditions sanitaires, et puis en plus nos invités n'habitent pas en région parisienne, voilà, ils sont sur Mumble, un outil libre de communication audio, que vous pouvez tester d'ailleurs sur le site Chapril, hein, chapril.org, vous avez un Mumble de test si vous voulez faire des communications audio avec vos amis. Alors donc, le thème du jour, donc la communication visuelle à l'aide de logiciels libres, et on va commencer par simplement une petite introduction personnelle rapide des trois personnes invitées. Donc je vais les laisser faire, donc on va commencer, on va reprendre le même ordre. Antoine Bardy.
Oui, alors moi je suis designer graphique indépendant, je réalise de la communication pour des clients, des institutions, des associations, et je suis aussi membre de l'April et bénévole dans le groupe Sensibilisation.
Groupe Sensibilisation animé par ma collègue Isabelle Avani, mais on en reparlera tout à l'heure. Elisa de Castroguera.
Oui, alors moi aussi je suis graphiste. Et pour Active Studio, nous avons des clients aussi bien privés que des associations également, et des projets libres hein, qui nous appellent pour les aider. Et je donne également des formations. On a une branche dédiée à la formation, aussi bien pour la formation professionnelle que la formation initiale, et on enseigne uniquement les logiciels libres.
Merci Elisa. Et dernier invité, Dimitri Robert.
Oui, donc moi je suis, alors je suis pas indépendant, mais je suis entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi, et ce qui me permet aussi de une forme de travail un peu libre. Mais j'aime bien tout ce qui est libre, hein, vous le remarquerez, dans lequel je peux faire de la formation, donc sur des logiciels libres de graphisme dont on va parler après. Je fais aussi un peu de développement, je peux faire un peu de graphisme aussi, graphisme plutôt papier et vidéo. Bah, je suis pas très branché graphisme web, voilà.
Bah écoute, merci Dimitri. Alors je rappelle que les personnes qui écoutent l'émission peuvent participer à notre conversation. Vous allez sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, et vous pourrez poser des questions, réagir, intervenir avec nos invités. Alors on va aborder donc plusieurs sujets aujourd'hui, et avant de parler de l'aspect logiciel libre, on va commencer un petit peu par parler de la communication visuelle, parce que la communication visuelle, je pense qu'on a tous plus ou moins une image, ou en tout cas une définition un petit peu, mais c'est peut-être pas celle dont nos experts et expertes vont nous parler. Donc je vais pour lancer le sujet sur ce premier thème de la communication visuelle, je vais demander un petit peu à Antoine de nous présenter un petit peu ça. Antoine, avant de te poser la question, ce que j'ai appris, ou en tout cas ce que j'ai retenu de la communication, mais tu me diras si c'est ça, c'est que communiquer, c'est le fait de transmettre des messages à des cibles dans un but d'atteindre un ou plusieurs objectifs au moyen de différents outils. Alors je te laisse réagir là-dessus et puis me dire à peu près qu'est-ce que c'est que la communication visuelle pour toi.
Alors, bah déjà, tu as bien répondu, c'est à peu près ça. Globalement, il s'agit de toucher un public en rendant visuel des idées ou des messages. Donc, ça peut être toute forme, effectivement, de support qui se voit et qui est lisible. Donc, effectivement, on a toute la partie imprimée, puis il y a toute la partie web, internet, et puis aussi la vidéo, qui rentre aussi dans cette catégorie. Après, globalement, c'est quand même assez large, il y a beaucoup de possibilités. La communication visuelle, ça englobe aussi beaucoup d'éléments qui sont véhiculés par la marque, notamment l'image de marque.
D'accord, dans le cas d'une entreprise qui veut, ou d'une organisation peut-être qui veut véhiculer une marque. D'accord.
Une entreprise ou une association, un événement, par exemple un événement, la communication visuelle va appuyer la visibilité de l'événement.
D'accord. Alors je reviens bientôt sur toi. Alors je précise que les trois personnes étant à distance, l'animation de l'émission est un petit peu différente de d'habitude, parce que quand je vois pas les personnes, donc je ne sais pas forcément quand est-ce qu'elles veulent réagir. Donc c'est pour ça que je distribue un petit peu la parole. Elisa, pour toi, qu'est-ce que c'est que la communication visuelle ?
J'ai beaucoup aimé la définition d'Antoine, et à cela je rajouterai également toutes les possibilités visuelles que nous avons aujourd'hui interactives, offertes aussi bien sur Internet que sur d'autres médias, comme les jeux vidéo, qui incluent pas mal d'éléments qui font appel à cette narration visuelle par le moyen des images et des sons aussi.
D'accord. Et ton côté, Dimitri ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Antoine et Elisa. Je rajouterais que quand même c'est une activité artistique finalement, la communication, parce qu'il faut quand même faire preuve de créativité pour faire passer le message. Faut que le message atteigne ses cibles, et donc ça demande quand même certains talents ou certaines techniques pour bien faire passer le message, parce que c'est facile de faire une affiche qui ressemble à rien, quoi. Tout le monde sait faire, quoi.
D'accord. Donc ce qui est important là-dedans, en fait, c'est parce qu'on va parler tout à l'heure des outils, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est pas finalement, si je comprends bien, les outils, c'est en fait quel message on veut faire passer, avec quels objectifs et quel public on cherche à atteindre. Et en fonction de ça, on va utiliser différents peut-être outils qui seront peut-être de la vidéo, de l'image ou d'autres. Et après, il y aura simplement les outils qui vont intervenir pour la réalisation, c'est à partir de la logiciel. Donc il faut partir plutôt des messages qu'on veut faire passer et des objectifs, plutôt que de dire simplement je vais faire une affiche sans réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. C'est ça ?
Bah, tout à fait. Moi, je réponds, c'est Dimitri.
Oui.
Moi, je dis toujours quand je donne des formations, prenez un papier, un crayon et décrivez ce que vous voulez faire passer comme message. Faites des croquis, faites des raturés, que ce soit pour de la mise en page, que ce soit pour du web ou pour de la vidéo. Faut pas hésiter à travailler avec un papier, crayon pour bien poser ses idées et pour être au clair après, avant d'ouvrir le logiciel.
Ah ben, quand tu parles de croquis, ça me fait penser, Antoine, je crois que c'est ta façon de travailler, parce que bon, on va quand même préciser que... alors là, on vient d'entendre le chat d'Antoine. On va le préciser, je ne sais pas comment il s'appelle ton chat, Antoine ?
Ouais, il s'appelle Kuka.
Kuka, d'accord. Bon, alors, on va peut-être entendre de temps en temps Kuka. Donc je disais qu'Antoine, tu es membre de l'April et tu travailles depuis bénévolement avec nous, notamment le groupe sensibilisation, pour faire beaucoup d'outils. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, ce que tu nous envoies en premier, c'est plutôt des croquis. Et tu nous poses aussi pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, quel message on veut faire passer, ça s'adresse à qui. Donc quelle est ta façon de travailler justement par rapport à ça ?
Alors c'est évident que pour faire de la communication, il faut déjà bien sonder les attentes et puis les objectifs aussi. Donc c'est difficile de se mettre dans des logiciels sans avoir avant bien planifié ou bien conçu toute la partie intellectuelle de ce qui va être vu et compris. Parce que la communication, ça englobe de la création, de la rédaction, faut scénariser des contenus, faut manipuler du sens et des symboles quand on fait des pictogrammes ou ne serait-ce que des images, il y a du symbole dans les images. Il y a aussi en fait, de l'imprimer, il y a des tas d'informations. Faut réfléchir à ce qu'on va dire et la façon dont on va l'exprimer. Donc, toutes ces choses-là se font bien avant de rentrer dans le logiciel. Effectivement, le croquis en fait partie. Ça permet de travailler beaucoup plus vite, plutôt que commencer à faire quelque chose de très abouti, qui va être présenté, puis après vous avez des modifications, etc. Donc, alors le croquis, ça permet quand même d'aller très très vite, pour voir si tout le monde est d'accord sur la piste à prendre.
D'accord, c'est-à-dire que ça permet en fait, avant d'avoir trop avancé sur quelque chose de fini, de pouvoir réagir sur quelque chose qui a été fait entre guillemets rapidement, j'entends bien, hein, et de pouvoir finalement visuellement se dire bah tiens, c'est la piste qui nous correspond ou pas. Et en fait, quand vous faites des croquis, est-ce que vous avez souvent d'ailleurs des refus en vous disant non, là tu te trompes complètement de piste, il faut changer complètement?
Je dirais que c'est surtout une histoire d'expérience. C'est quelque chose qui se produit, je pense, assez fréquemment au tout début de carrière et de moins en moins en fin de carrière.
Tu parles de carrière de la personne qui fait la communication.
Voilà, la professionnelle. Communication, puisqu'elle a l'habitude de voir ce qu'il y a à rendre, ce qu'il y a à exprimer plus facilement après des années et des années d'expérience.
D'accord. Et de votre côté, Dimitri ou Elisa ? Elisa, peut-être ?
Ouais, je ne sais pas si c'est une histoire de carrière, mais quand on discute beaucoup avec le client, on va appeler ça un client, on comprend le sujet, quand on arrive à échanger un vocabulaire et être d'accord sur la définition, après, les premiers croquis sont tout de suite dans le bon sens. Mais moi, j'aime bien donner vraiment des croquis très différents au début, et comme ça, ensuite, on se dirige tout de suite vers quelque chose d'approprié.
Oui, donc des croquis qui représentent différentes pistes plutôt qu'un seul croquis, ce qui permet à la personne de te dire dans quelle direction elle souhaite aller.
Exactement. Et cette étape-là, elle n'est quand même pas facile à faire comprendre à des clients qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là de la communication visuelle, parce qu'ils s'attendent à un résultat tout de suite magnifique, joli, en couleur, alors que nous, on est encore avec le crayon. Mais voilà, c'est un processus sur lequel on est obligé d'éduquer notre client.
Alors, bah, d'accord, justement, Dimitri, en parlant d'éducation du client, alors Antoine, on entend beaucoup ton chat, si tu peux passer en push tout appuyé pour parler, ça sera bien, mais sinon, c'est pas grave, hein, le chat va animer cette émission. En parlant du chat, j'ai oublié ce que... Ah oui, par rapport, donc Dimitri, par rapport justement à la relation avec la personne qui fait une commande, alors que ce soit une commande professionnelle ou dans un cadre bénévole, est-ce que c'est facile de faire comprendre finalement que la communication, c'est un métier en tant que tel ? C'est-à-dire, ça s'improvise pas et que il y a des, comme vous venez l'expliquer, il y a des étapes. Est-ce que c'est facile à faire comprendre ? Parce que finalement, on se dit, effectivement, comme le dit à un moment Elisa, je crois, ou Dimitri, tu le disais, faire une affiche, finalement, c'est assez simple avec les outils, mais faire une affiche qui correspond véritablement à un axe de communication, c'est pas simple. Donc, est-ce que c'est facile de faire comprendre ça aux personnes ? Dimitri, Robert.
Alors, je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre, parce que je fais assez peu, j'ai assez peu de clients, puis en général, c'est des clients que je connais bien par ailleurs, donc voilà, ça va être des associations pour faire des affiches pour des festivals, ou voir des vidéos pour des festivals, donc il y a une certaine bienveillance, et les croquis finalement me servent qu'à moi, et je montre un résultat qui généralement ne nécessite que quelques retouches. Mais je dirais de manière générale que voilà, faire comprendre que la communication c'est un métier, c'est pas simple. Même si j'en ai pas ressenti l'expérience, je sais que voilà, je vais laisser parler les autres qui ont sûrement plus d'expérience.
Alors Elisa ou Antoine, qui veut réagir là-dessus ?
Moi je peux réagir, effectivement, il faut quand même toujours faire un petit peu de pédagogie avec les clients pour des fois défendre une idée. Et la défense de l'idée, c'est vraiment une partie du travail. Moi, dans mon travail, je préfère faire moins de propositions et défendre plus. Et bien c'est tout à fait personnel.
Alors que finalement, si j'ai bien compris, Elisa, toi, tu fais plus de propositions.
Oui, complètement, parce que déjà, j'ai toujours beaucoup d'idées et j'aime montrer toutes mes idées. Et comme ça, après, il y a plusieurs possibilités. Et ensuite, plus on avance dans le projet, plus on se restreint, en effet.
D'accord. Et est-ce que c'est plus simple de travailler quelque part dans un cadre, parce que tous les trois, je crois que vous travaillez à la fois dans un cadre professionnel, donc c'est-à-dire avec de la clientèle, et à la fois aussi dans un cadre associatif. Est-ce que c'est plus facile de travailler dans un cadre que dans l'autre, ou est-ce que finalement ça change pas grand-chose au fond à ce que vous faites, Dimitri ou Elisa ? Tiens, Elisa.
Ouais, alors il y a de tout en fait. Donc dans un cadre plus libriste, on va dire. On essaye d'apporter son aide à un projet. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec pas forcément les décideurs du projet, mais aussi avec la communauté. Et là, ça devient long et il faut gérer aussi les... je sais plus comment dire en français, mais quand quelqu'un de la communauté qui propose quelque chose, et il faut froisser personne, il faut prendre en compte tout le monde, même ceux qui sont amateurs et pas que pros. Donc tout de suite, ça devient assez lourd à gérer.
Ah ben justement, tiens, alors je vais d'abord laisser réagir Dimitri là-dessus, et puis après je reviendrai sur Antoine par rapport à ce point spécifique que tu évoques, Elisa. Dimitri, toi, dans ton expérience, est-ce que c'est finalement, il y a une différence entre les deux, ou finalement c'est la même chose ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de différence. J'ai eu des expériences pas terribles, même avec des associations, même une fois où c'était gratuit, où ça s'est mal terminé, et où j'ai laissé tomber, quoi. Donc... voilà, c'est plus une affaire de personnes, je pense, que de structure. Après, des fois, j'ai des associations comme clients, mais voilà, je pense pas que le fait que le client paye change forcément quelque chose. C'est
D'accord. Ouais, Alors, par rapport à la, on a parlé un petit peu des clients, des la communauté Libris. Est-ce que, Antoine, je ne sais plus depuis combien de temps tu contribues à l'April, mais ça doit faire bien une dizaine d'années, je pense qu'Elisa...
2009.
2009, donc Elisa, tu as préparé l'émission, c'est bien. Elisa et Dimitri, vous devez sans doute contribuer depuis aussi pas mal d'années dans des communautés. Est-ce que la vision de l'importance de la communication, notamment visuelle, a évolué dans les communautés entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui? Est-ce que c'est plus pris en compte, mieux compris ou pas? Qui veut réagir?
Alors, c'est Elisa. Massivement davantage pris en compte, oui.
Donc, c'est une évolution positive?
Oui, enfin, pour moi, oui. Ouais.
D'accord. Donc, OK. Et donc, de ton côté, Antoine, ou Dimitri, vas-y.
Ouais, dans le libre, on partait de loin quand même. Hein.
Oui.
Donc, oui, effectivement, il y a peut-être eu l'effet Ubuntu qui, à partir de 2004, a apporté une image un peu plus léchée, un peu, qui a poussé les autres finalement à se mettre un peu au niveau. Peut-être, j'ai pas analysé réellement la question, c'est juste une impression, quoi. Mais oui, il y a une communication qui est un peu moins construite, peut-être avec des fois plus de moyens, pas toujours, mais on sent qu'il y a des artistes qui s'investissent. Je pense à David Revoix, par exemple, qui contribue notamment à Blender. Voilà, il y a Framasoft aussi d'ailleurs.
Et à la Fondation pour le logiciel libre aussi, pour leurs 35 ans, il a fait leur t-shirt et leur affiche.
Donc il y a, je pense qu'il y a une évolution de la qualité, oui, depuis une quinzaine d'années.
D'accord. Et Antoine, toi, tu as le droit d'être tout à fait honnête par rapport à ton expérience avec la prime.
Oui, je pense que le fait qu'il y ait des logiciels libres qui sont arrivés dans la création graphique ou la vidéo, etc., ont favorisé le fait qu'il y ait des intervenants qui arrivent et qui apportent leur mot, on va dire, dans les communautés de logiciels libres. Tant que ça restait des outils peut-être un peu inaccessibles aux créatifs, on va dire, ça a dû changer quand même beaucoup de choses à ce moment-là.
D'accord. Alors justement, est-ce que par rapport à la remarque que faisait tout à l'heure Elisa, et sur laquelle je voulais justement que tu rebondisses, et éventuellement les autres aussi, sur le fait que dans les associations, quand elle parlait des bénévoles qui proposent des choses qui sont pas forcément de qualité, mais qu'il faut être gentil, etc., est-ce que justement le fait que les outils sont de plus en plus simples, entre guillemets, à utiliser, parce qu'on en parlera tout à l'heure, est-ce que justement ça complexifie pas de quelque part le travail, entre guillemets, des pros? Parce que finalement, il y a des gens qui pensent faire de la communication parce qu'ils sont capables d'utiliser un outil graphique et qu'il faut gérer cet aspect-là. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, il y a un aspect accès. On a comment on a accès à l'outil, on peut se dire, le fait de savoir se servir de l'outil, ça y est, on est graphiste, ou on va donner son avis. Mais en fait, il y a tellement de compétences nécessaires pour faire ce métier qu'il y a forcément un gap entre un amateur qui débute ou qui veut proposer des idées et puis un graphiste ou quelqu'un qui réfléchit qu'à la communication ou qui a une vision marketing. Donc effectivement, il y a des grosses différences. Donc c'est pas toujours évident dans les communautés de faire comprendre ça, ce qui peut prendre un peu de temps, ou alors des fois on se prend je me rappelle m'être pris des vestes, des commentaires, donc voilà, bon, il faut, je pense, avoir quand même un peu d'humilité aussi pour rentrer au début dans les communautés du logiciel libre pour participer.
D'accord. Alors je vois sur le salon web qu'il y a une remarque de Laurent Costi, hein, qui dit que dans les associations, la communication était longtemps associée à la vente, donc au commercial, donc que c'est potentiellement mal vu dans les associations. C'est complété par Olivier Grieco, donc le directeur d'Antenne, qui dit que la com pouvait être vue comme une pratique commerciale. Est-ce que vous avez vécu cette problématique-là dans les côtés communautés du libre, Elisa ou Dimitri?
Pas forcément. Après, alors ça fait un petit moment que je traîne plus assez dans la communauté du libre. Moi, c'est vrai que j'aurais plus une expérience d'association dans d'autres domaines où il y a aussi du boulot à faire sur les enjeux du libre. C'est intéressant, des fois c'est un peu fatigant, mais du coup le coup de commercial mal, tout ça, ça non, je me souviens pas l'avoir spécialement vécu. Mais voilà, encore une fois, je manque peut-être de retour récent sur la question.
D'accord. De ton côté, Elisa?
Ouais, pour ma part non plus, je n'ai pas d'association entre faire quelque chose dans la communication qui soit lié à un produit vendu par le projet auquel j'ai participé, parce qu'à chaque fois j'ai participé à des projets qui tournaient autour de logiciels ou de distribution, et donc tout était gratuit.
D'accord. Ok, alors je suis en train de lire les commentaires sur le salon web, parce qu'aujourd'hui il y a du monde, donc c'est très bien. Je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre, hein, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite rajouter quelque chose sur cette partie introductive sur la communication visuelle avant qu'on passe à la partie outils?
Oui, je voulais rajouter que peut-être en effet l'amélioration des outils libres graphiques ont fait en sorte d'attirer plus de professionnels qui ont souhaité participer à la communauté en proposant leurs services. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître aussi des utilisateurs qui ont fait des retours qui ont permis d'améliorer, et donc c'est un cercle vertueux.
Bah c'est super. Dimitri ou Antoine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie introductive?
Oui, je pense que Antoine. Ce que vous avez dit est très juste. Le fait que les logiciels se soient améliorés fait que des professionnels ont pu utiliser les logiciels et faire des retours. Par exemple, David Rodois, qui avait effectivement participé à l'amélioration, je crois que c'est Krita. Donc ça a quand même beaucoup fait avancer le logiciel.
D'accord. Dimitri, tu souhaites ajouter quelque chose ?
Oui, en effet, David a une forte utilisation de Krita et je pense qu'il est très proactif pour apporter des améliorations. Sinon, une petite remarque, moi, oui, sur le domaine associatif, mais hors libre, c'est voilà, le rapport au logiciel, au numérique est un petit peu différent et je pense que là, on va souffrir de la concurrence d'outils comme Canva, qui est un outil en ligne qui se présente comme un outil de mise en page. Sauf que voilà, c'est très très dirigé et il n'y a pas vraiment de démarche créative puisque les gens vont souvent utiliser des modèles. Enfin, je cite Canva, mais il y en a d'autres pour d'autres domaines. Donc il y a un peu cette concurrence là qui peut-être faire du mal au libre, peut empêcher qu'il se développe plus qu'il ne pourrait le faire parce que quand même les associations, surtout celles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Enfin, moi, je pense qu'elles auraient tout intérêt à utiliser des logiciels libres.
D'accord. Alors, bah justement, on va parler des logiciels libres. Alors, je vais préciser qu'on va pas parler évidemment de tous les logiciels libres qui existent. Je précise également que nos invités vont sans doute citer de nombreux noms. On va pas vous donner le site web de chaque projet. Sur april.org et sur causecommune.fm, vous retrouverez une page consacrée à l'émission et on mettra toutes les références qui seront citées au cours de l'émission. Donc là, on va aborder le deuxième sujet, donc les logiciels libres pour la communication visuelle. On va essayer de vous parler des principaux. La plupart, je crois, mais ça sera précisé par les invités, tournent sur différentes plateformes, hein, que vous soyez sur un environnement privateur ou sur un système complètement libre. Alors, première thématique qu'on pourrait aborder, c'est, on a parlé tout à l'heure d'affiches, donc c'est quelque part la création d'images, le dessin. De quel logiciel vous souhaiteriez parler tiens, Dimitri, vu que tu avais la parole.
Alors pour faire de la mise en page, je vais utiliser un certain nombre de logiciels. En fait, c'est ça c'est ça qui est bien avec le libre, c'est qu'on peut utiliser plusieurs logiciels et on va l'utiliser pour ceux qui le savent bien faire. Quoi. On n'est pas obligé de se restreindre à un logiciel parce qu'on n'a pas les moyens de payer toutes les licences. Et donc l'intérêt, c'est de vraiment utiliser tous les logiciels pour chaque tâche. Quoi. Donc pour la mise en page, j'utilise Scribus. Les Scribus, c'est le logiciel qui fait l'assemblage de toute la matière première qui aurait été produite avec d'autres logiciels. Et les autres logiciels, ça va être GIMP pour la retouche photo, Inkscape pour le dessin vectoriel, et des fois même Krita. Alors, je maîtrise pas très bien Krita, mais il a quand même un avantage, c'est qu'il gère le CMJN. Donc le CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir, c'est le modèle colorimétrique utilisé dans l'impression. Et ça m'arrive parfois d'avoir des besoins de couleurs assez précis. Dans ce cas-là, j'utilise Krita.
D'accord. Elisa, de ton côté ?
Alors, moi, j'aime bien parler de suite créative. Et du coup, en effet, comme a dit Dimitri, on utilise un logiciel et ensuite un autre. Et en complémentarité, on arrive comme ça à avoir tous les besoins qui sont assouvis. C'est pas le bon mot, mais là, je n'ai pas le mot en tête. Et donc, j'utilise pareil, GIMP, Scribus, Inkscape, Blender... Darktable, j'aime bien aussi, pour gérer des photos et faire des modifications en masse sur une série de photos.
Et donc, tu utilises ces logiciels en fonction vraiment du besoin. Par exemple, pour que les gens comprennent, quelle est la différence entre GIMP, par exemple, et Scribus ?
Tu veux peut-être intervenir ? Alors, en fait, dans la création, il y a toute une chaîne où on conçoit par exemple les premiers visuels qui ont, comme les photos par exemple, et puis après on va les emmener par exemple pour faire une affiche jusqu'à les assembler et mettre du texte ou des logos, des choses comme ça. Donc il y a toute une différents types de formats de fichiers et différents types de logiciels pour faire différentes tâches. Donc on va commencer par exemple avec pour travailler ses photos avec GIMP et Krita, ou alors avec Darktable effectivement pour trier ses photos ou les retoucher. Puis on va apporter ses photos dans Scribus, on va par exemple retoucher ou créer un pictogramme ou une illustration dans Inkscape, qui est un logiciel de vecteurs qui va travailler les vecteurs, et puis après cette même chose on va l'importer à nouveau dans Scribus. C'est les mêmes processus que sur des suites propriétaires.
Est-ce que tu peux juste préciser, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur?
Alors vecteur, c'est une courbe mathématique, enfin c'est un dessin qui est réalisé avec une courbe mathématique. C'est-à-dire qu'une police de caractère est réalisée avec des vecteurs, par exemple. Une image matricielle, on peut dire, c'est une image qui est faite avec des pixels. Donc, c'est des petits carrés à l'écran. Alors, c'est les deux grandes familles de rendus qu'on voit dans les logiciels de graphisme.
D'accord, voilà. Ok.
Peut-être pour préciser, le vectoriel, voilà. Le vectoriel, ça va servir à faire des plans, des pictogrammes, des schémas, tout ce qui peut être fait à partir de formes simples ou plus ou moins simples, à partir de courbes. Et l'avantage du vectoriel, c'est que c'est recalculé à chaque affichage, donc on peut l'étendre à volonté, c'est recalculé, c'est toujours parfaitement lisse, quoi. Mais par contre, on ne peut pas représenter des photos en vectoriel.
D'accord, donc en vectoriel, on est obligé d'utiliser un autre outil, c'est ça, je comprends bien, pour les photos.
Oui, on peut aussi faire des vecteurs très très complexes, hein.
D'accord, ok, mais bon, c'est...
Mais ça reste de la construction, on n'est pas sur représenter une photo, effectivement, avec des vecteurs, c'est pas possible.
D'accord, ok. Ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale avant de continuer la discussion. Alors, par contre, je sais pas... Ah oui, si, elle est là. Donc, nous allons écouter Hard Country par Tonhouse Woods. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune.
Your wish is to get dead, 'cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here, he moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. You don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This year take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you, come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here.
venons d'écouter Art Country par Tonehouse Woods, disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion sur la communication visuelle et les logiciels libres avec nos invités Antoine Bardelli, Elisa de Castro-Guerra, Dimitri Robert et vous, si vous nous rejoignez sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc juste avant la pause, on parlait un petit peu des logiciels libres pour l'image. On va sans doute y revenir un petit peu après, mais je vois qu'il y a aussi des discussions parallèles sur le salon web que j'avoue j'ai un peu de mal à suivre, mais on va essayer quand même de revenir là-dessus. Parlons un peu de montage vidéo. On a déjà parlé dans cette émission, alors je sais plus à quelle occasion, notamment de Blender et KDN Live. Pour les personnes qui souhaitent faire du montage vidéo pour faire de la communication visuelle, donc quels outils logiciels libres vous pourriez leur conseiller? Qui veut commencer?
Eh bien, Dimitri, vas-y.
Ah, Dimitri, ok.
Bon, moi je fais de la formation montage vidéo. Alors pour des gens qui connaissent pas, hein, qui sont en total débutants. Donc c'est vrai que j'ai pris le parti de former sur Shotcut, qui est un logiciel assez simple, qui a l'avantage d'être multiplateforme. Donc à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, KDN Live n'était pas multiplateforme. Moi j'aime beaucoup KDN Live, c'est celui que j'utilise hein, pour monter, mais Shotcut je trouve qu'il a il est valorisant dans le sens où voilà, au bout d'une après-midi de travail, un débutant il peut commencer à avoir quelque chose d'abouti, qui va être montrable. Donc c'est très satisfaisant pour un débutant d'avoir assez rapidement un résultat. Et après, il aura envie de passer à autre chose, donc effectivement, des choses un peu plus complexes comme KDN Live ou Blender.
D'accord. Elisa, je crois que tu voulais intervenir aussi.
Oui, de mon côté, je connais que Blender, c'est vrai. J'ai peut-être pas commencé par le plus connu, mais je trouve qu'avec Blender, c'est très simple et tout de suite, on a accès à plein de possibilités 2D et 3D. Qui sont assez intuitifs, donc je m'en plains pas et je vous le conseille.
Et la fondation Blender, hein, donc on en a parlé notamment dans une émission où on est revenu un petit peu sur l'histoire de Blender, qui était à l'origine un logiciel privateur qui a été libéré suite à un appel. La fondation Blender produit aussi des films d'une grande qualité, donc que vous pouvez retrouver sur blender.org. De ton côté, Antoine, est-ce que toi tu es spécialisé dans l'image ou est-ce que tu fais aussi du montage vidéo?
Alors moi, je fais pas du tout de vidéo.
D'accord.
Donc, je laisse mes confrères en discuter.
Alors, justement, ça me fait venir une question. Je crois que c'est Dimitri qui disait que Shotcut avait l'avantage de pouvoir être utilisable, entre guillemets, facilement, en tout cas de prendre la main relativement facilement. J'ai envie de vous demander quels sont les prérequis. Est-ce qu'il y a des prérequis, des connaissances nécessaires pour utiliser ces différents outils, que ce soit ceux de traitement d'image, que tout à l'heure, Antoine a parlé de vecteurs, donc on peut se dire ça fait un petit peu peur. Donc, est-ce qu'il y a des connaissances, des prérequis pour utiliser ces logiciels, soit de création d'image, de retouche d'image, soit au niveau vidéo?
Alors, je pense Antoine. Que pour tout ce qui est logiciels qui sont destinés à l'impression imprimée, il faut quand même des connaissances en imprimerie, un petit peu, et en colorimétrie, c'est quand même intéressant. Voilà, donc ça, comprendre un petit peu comment fonctionnent les couleurs, c'est quand même un petit peu indispensable si on veut faire un travail professionnel avec ces logiciels.
Alors justement, est-ce que tu peux parce que ça c'est un point important, parce que c'est vrai qu'on on n'a pas abordé ce point de la relation avec les prestataires, donc là en l'occurrence le prestataire d'impression. Pourquoi il faut avoir des connaissances en colorimétrie?
Alors dès qu'on va retoucher des photos, on va recevoir par exemple des photos qui sortent d'un appareil photo. Alors déjà, une association peut vous envoyer des photos, et puis il y a des ombres partout, et puis il y a certains qui vont vous dire « Ah ben, celui-là, il fait plus partie de l'entreprise, ou il fait plus partie de l'association, il faudrait l'enlever de la photo. » Donc ça veut dire qu'il y a de la retouche à faire. Ou des fois, les photos sont prises, il fait pas beau, hein, super, et puis en fait, le client voudrait la mettre sur la couverture. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir retoucher les images qu'on nous a fournies. Donc pour ça, il faut quand même avoir des notions de colorimétrie, de comprendre comment fonctionnent les couleurs et comment elles sont gérées par les logiciels pour pouvoir intervenir.
Ah d'accord, je crois que tu parlais dans le relation par exemple avec un prestataire d'impression sur une affiche qui va peut-être par rapport au format PDF ou autre, je ne sais pas, va peut-être avoir des demandes particulières. Je pensais que tu parlais de ça en fait.
Non, ce que je veux dire c'est qu'il y a, différentes choses à connaître en amont et en aval.
D'accord.
Donc là effectivement c'est plutôt en amont la photo, mais effectivement il y a aussi des choses à savoir en rapport avec l'impression, oui.
Alors justement, rapidement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Enfin, qu'est-ce qu'il faut anticiper?
Pour l'impression, c'est plus vaste. C'est un métier déjà qui est particulier. L'imprimerie, c'est une industrie. Ça veut dire qu'il y a des machines. Des fois, les machines qui vont imprimer, elles font plusieurs mètres de long. Donc, on n'est pas du tout sur une imprimante de bureau. C'est pas du tout le même rapport. Et il y a des tas de connaissances à connaître, notamment connaître les techniques d'impression. Savoir comment ça va être imprimé pour bien comprendre les principes, le sens d'impression, c'est-à-dire l'ordre de laquelle vont être imprimées les couleurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment préparer ces fichiers pour que l'imprimeur ne soit pas qu'il puisse l'imprimer sans qu'il y ait de problème à la sortie, pour qu'on ait la même chose que ce qu'on voulait lorsqu'elle va sortir imprimée. Parce que sinon, si on se trompe ou si on fait des erreurs dans la préparation du fichier, on peut avoir des sacrées surprises.
D'accord, ok. Alors c'est effectivement un point intéressant parce qu'on peut penser que c'est très simple d'avoir une relation avec un impression et c'est vrai que pour travailler avec toi depuis longtemps, j'ai un peu progressé sur ce domaine-là. Je dirais que Isabella, ma collègue, a encore plus progressé sur cette compréhension. Est-ce que Dimitri et Lisa, est-ce que vous avez la même problématique, notamment par rapport à vos prestataires, notamment pour l'impression ou d'autres prestataires peut-être d'ailleurs, je ne sais pas.
Bah, en fait, c'est pas vraiment un problème. Voilà, il suffit juste de savoir ce que le prestataire attend. Donc, en gros, ça va être le format du papier. Enfin, quelles sont les dimensions du papier imprimé? Est-ce que c'est une brochure avec tant de nombre de pages? Il y a deux ans, par exemple, j'ai fait la mise en page d'un boîtier CD, un digipack de volet. Donc, pour ça, j'ai récupéré auprès de l'imprimeur le modèle. Donc, un gabarit et que j'ai adapté après dans Scribus et j'ai renvoyé les fichiers avec les éléments qu'ils attendaient là où ils les attendaient, quoi. Voilà, donc il suffit juste de bien discuter avec l'imprimeur pour savoir ce qu'il attend, aussi en normes PDF aussi, parce qu'il y a plusieurs normes pour le PDF, donc savoir ce qu'attend l'imprimeur et lui fournir la bonne. Après pour la vidéo,
attends juste avant, ouais. Avant la vidéo, on va continuer juste sur le PDF parce que je vois sur le salon web qu'il y a des commentaires. Donc finalement, par rapport à ce que je vois sur le salon web, pour la personne qui fait la société d'impression, il n'y a pas forcément besoin qu'ils connaissent le logiciel qui a été utilisé. Ce qui va être important, c'est le format de fichier. Et donc il y a plusieurs versions de PDF. Et donc en fonction de ce qu'on demande à l'impression, il faut fournir un format de PDF particulier. C'est bien ça?
C'est ça, oui.
D'accord.
Oui, effectivement, les imprimeurs, si on leur fournit le PDF qui est bien fait, eh ben ça pose aucun problème. Même s'il est fait avec Scribus ou sous un GNU Linux, hein, il y a vraiment aucun problème. J'ai imprimé plein de trucs chez mon imprimeur local. Ça s'est toujours très bien passé.
D'accord. Et donc sur la vidéo, je te laisse continuer sur la vidéo.
Oui, sur la vidéo. Donc j'ai une petite expérience aussi. J'ai fait quelques bandes annonces qui sont passées au cinéma, donc au cinéma de ma commune à Chinon. Donc c'est un petit cinéma associatif, mais quand même qui est équipé en projection numérique. Voilà, là c'est pas compliqué non plus parce que c'est eux qui font la conversion au format DCP. Donc c'est le DCP, c'est le format qui est utilisé pour le cinéma. Moi, je fournis un truc très classique, MP4, non compressé. En full HD, c'est suffisant hein, pour le cinéma. Faut pas chercher à faire du 4K. Le 4K, c'est juste un truc pour vendre des téléviseurs. voilà, un format propre, non compressé, et ça baigne quoi. Après, le cinéma, il a des outils pour faire la conversion. Et pareil, le fait que ce soit fait sur du libre, ça ne pose aucun problème.
D'accord. Elisa, toujours sur ma question initiale, donc sur les prérequis ou les connaissances nécessaires, toi qui je rappelle qu'une partie de ton activité, c'est d'être formatrice. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires ou est-ce que tout le monde peut se mettre à utiliser ces outils, que ce soit l'outil de traitement d'image, de vidéo ou autre?
Oui, je pense que tout le monde peut en effet les utiliser. Et ensuite, l'usage qu'on va en faire, ça va être avec des objectifs différents quand on a un usage professionnel ou amateur. Et en effet, si on fait appel à des besoins spécifiques, eh bien, il faut se renseigner sur ces besoins, comme imprimer en couleur chez un prestataire qui accepte qu'un format, ou alors diffuser un teaser dans une taille, un format spécifique, là, il va falloir calibrer son projet en fonction.
D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question sur le salon web, je ne sais pas qui pourra répondre. Est-ce que vous avez déjà utilisé donc Synfig, qui est visiblement un logiciel d'animation 2D, libre, multiplateforme ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé ?
Oui, je l'utilise depuis 2 ans à peu près, quoi. Donc j'ai commencé à intégrer des parties faites avec Synfig dans mes bandes annonces. Donc Synfig, pour en 2 mots, voilà, c'est un logiciel qui permet de faire du dessin animé, mais en vectoriel. C'est-à-dire pas, vous n'allez pas avoir besoin de dessiner chaque image. C'est en fait une vidéo, quand on parle de vidéo en 25 images secondes, ça veut dire qu'il y a 25 images qui vont se succéder sur une seconde. Et donc Synfig, lui, il fonctionne pas comme ça, il va faire de ce qu'on appelle de l'interpolation, c'est-à-dire vous avez une position à au temps 0 par exemple, une position au temps 3 secondes qui est différente, et Synfig va calculer toutes les positions intermédiaires. Donc c'est assez facile à faire de l'animation. Le logiciel est un petit peu complexe à prendre en main quand on n'a pas l'habitude, mais moi c'est un logiciel que j'aime beaucoup et qui m'a servi pour justement pour enrichir un peu certaines bandes annonces que j'ai faites. Et je pense que c'est un logiciel qui peut servir à faire du motion design. Donc le motion design en français, c'est l'animation numérique. Voilà, quand vous faites de la publicité ou vous voulez promouvoir un logiciel par exemple, vous allez faire une petite vidéo avec des phrases qui vont s'afficher à l'écran, qui vont partir avec des flous, tout ça. Enfin, c'est vraiment animer le texte et des formes vectorielles dans votre vidéo. C'est ce que font certains médias en ligne comme Brut par exemple, pour citer que.
D'accord. Voilà. Ok, je précise que Elisa dit que c'est beaucoup plus facile avec Blender. Une question collective, peut-être un peu provocatrice. Est-ce qu'il est possible de travailler de façon professionnelle, donc dans la communication visuelle, avec du logiciel libre ? Un peu provocatrice parce que je crois que c'est un peu votre activité, mais est-ce que c'est possible de le faire 100% logiciel libre, ou est-ce qu'il y a encore des difficultés ? Antoine, pour commencer.
Oui, alors moi j'utilise le logiciel libre dans mon activité professionnelle, donc il y a des projets qui sont faits 100% en logiciel libre, et d'autres projets qui ne sont pas faits en logiciel libre, ou alors le logiciel libre n'intervient que pour certaines parties.
D'accord, et ça dépend de quoi Bonjour le chat, donc ça dépend de quoi ?
Alors le chat, oui, je vais le tuer, je pense, à la fin de la séance. Ça dépend du projet en lui-même, et surtout des interactions que je vais avoir avec les partenaires qui jouent le projet.
D'accord. Et Elisa, de ton côté ?
Eh bien, pour ma part, je suis sous Linux, et donc les logiciels propriétaires ne marchent pas. Alors, je n'utilise que du libre.
D'accord. Et t'as jamais... Bah, oui. Qui voulait intervenir ? J'ai pas entendu.
Ah, je disais bravo.
Ah, d'accord. Ok. Et il y a Emmanuel Reva qui faisait sa chronique d'avant, qui traite ton chat de droite, visiblement. Ouais. Donc, je pense qu'il fait partie du CCC, Emmanuel, comme beaucoup de gens. Et ton côté, Dimitri, dans ton activité, même si toi, t'es peut-être plus formateur, je sais...
C'est vrai que je suis plus formateur, mais je pratique aussi quand même ce que les choses que j'enseigne. Enfin, j'essaie de pratiquer. C'est vrai que ces derniers temps, alors ces 2 dernières années, on va dire, j'ai plus fait du développement d'un logiciel libre aussi, mais en lien avec la formation. Donc, j'ai un peu laissé tomber le graphisme par manque de temps. Mais j'essaye quand même de faire des prestations graphiques, même si c'est pour des assos que j'aime bien et que je leur fais pas payer. Mais du coup, ça passe quand même par des professionnels à un moment, soit par l'impression, soit par le cinéma. Donc oui, on peut travailler entièrement en logiciel libre. Alors j'aurais mis il y a quelque temps un petit bémol, notamment sur le web design. Mais depuis peu, il y a Penpot qui existe, qui est du libre et qui permet de faire ce qu'on appelle des mock-ups, donc des maquettes web. Et avant, ça n'existait pas en libre, il me semble. Alors je pratique pas du tout, hein, mais j'ai un peu suivi quand même l'affaire et il me semble que voilà, Penpot enlève une sacrée épine du pied. Mais je pense qu'Antoine, tu peux en parler.
Oui, OpenPod, ça permet de faire ce qu'on appelle des interactions avec une, on peut dessiner l'interface en ligne, et puis on va, par exemple, animer ou faire une sorte de, on va dire, de prototype assez abouti qui permet de visualiser l'animation ou l'interaction dans l'application. Donc oui, effectivement, il y a toute une vague de logiciels propriétaires qu'on n'arrivait pas à contrer, mais effectivement, Penpot va permettre de rentrer sur ce créneau.
D'accord, on rajoutera les références évidemment sur les sites consacrés à l'émission sur april.org et causecommune.fm. Alors je regarde le temps passe vite, donc on va passer au sujet suivant. Et pour les questions que je ne prends pas et qui sont sur le salon, je vous laisse leur répondre, notamment parce que voilà, il y a des questions, je ne peux pas toutes les prendre. On va parler un peu de la formation, parce que voilà, c'est comment se passe la formation à ces outils. Et déjà, est-ce qu'il y a au niveau de la formation initiale, est-ce que dans la formation initiale, il y a eu de la formation à des outils libres ?
Elisa. Alors, ok. En effet, c'est pas évident de trouver de la formation dans le graphisme libre, puisqu'il y a une mainmise par des logiciels propriétaires qui sont diffusés partout. Et justement, les gens de la formation disent que c'est parce que les professionnels cherchent des gens qui connaissent que les logiciels propriétaires. Donc, avec un groupe d'amis dans le livre, on s'est dit c'est pas possible parce que c'est un serpent qui se mord la queue. On forme que à des gens parce que soi-disant après ils trouvent que du travail avec des logiciels propriétaires, même dans les boîtes, dans les entreprises qui proposent des services ou qui développent des services libres et des logiciels libres. Donc, nous avons décidé de créer une école pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se former logiciel libre graphique plutôt que de se déformer au logiciel libre graphique.
Et elle s'appelle comment cette école ?
Nous l'avons appelée Active Design. Et donc on forme à différents métiers dans le secteur graphique.
D'accord. Et c'est de la formation en présentiel, à distance ? Comment ça se passe ?
Nous avons les deux possibilités. Alors c'est vrai qu'on privilégie la formation en présence, oui, puisque les gens, on remarque qu'ils apprennent mieux, plus vite. Mais sinon, on est en Bretagne, donc on sait que tout le monde ne peut pas venir profiter de notre belle ville de Rennes. Et donc, on propose également ces formations à distance.
C'est dommage parce qu'à Rennes, il y a des belles terrasses maintenant qu'elles ont réouvertes avec de la bonne bière.
J'ai entendu parler de ça, oui.
Dimitri, de ton côté, donc ça c'est la formation initiale. Et côté formation professionnelle, comment on peut se former ?
Alors, peut-être déjà expliquer la différence entre formation initiale, formation professionnelle.
Oui, vas-y.
Formation initiale, en fait, c'est quand c'est de la maternelle, on va dire, jusqu'à l'université. Voilà, c'est votre formation initiale avant de rentrer dans la vie active. Et une fois que vous êtes dans la vie active, eh ben, si vous voulez vous former, vous allez devoir suivre ce qu'on appelle la formation professionnelle continue, donc la formation tout au long de la vie. Donc c'est deux choses très différentes qui sont pas régies par les mêmes règles et voilà, soit on se positionne dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux, mais il faut comme Elisa. Je signale quand même en formation initiale, il y a dans le public, donc c'est l'université Lyon 2 qui a une licence pro qui s'appelle Colibre, qui est gérée par Vincent Mabillot, que je salue s'il nous écoute. Donc c'est une licence professionnelle qui forme au métier de la communication uniquement avec des logiciels libres. Donc c'est la seule en France, ça existe depuis 2007 je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, il y a facile plus de 10 ans. Enfin, moi, j'y ai enseigné entre 2010 et 2014, donc ça doit faire, je dirais 2007. Après, en formation professionnelle continue, donc effectivement, il y a, on est quelques organismes de formation. Donc, moi, via ma coopérative qui organise de formation, donc je peux animer des formations professionnelles continues et permettre aux stagiaires de bénéficier de prise en charge par l'EuropCo. Ou de former des gens OPCO, donc c'est opérateur de compétences. Donc avant ça s'appelait les OPCA, opérateurs, non, organismes paritaires collecteurs agréés, donc c'était eux qui collectaient la taxe pour la formation professionnelle auprès des entreprises. Maintenant ça a changé avec la réforme, donc je vais pas rentrer dans les détails de la réforme, puis en plus il y a déjà eu une émission début janvier là-dessus.
Oui.
Donc voilà, pour je reviens à la formation professionnelle continue. Et donc nous sommes quelques petits organismes, donc il y a effectivement Active Design, il y a 2I2L à Nantes. Donc je parle de petits organismes qui sont des gens qui sont convaincus par le libre. Et mais on commence à voir apparaître de plus en plus des formations sur des logiciels libres dans des plus gros organismes de formation qui font aussi du logiciel privateur. Donc je me demande s'il n'y a pas un effet de mode sur le logiciel libre. Et ça arrive régulièrement qu'on soit contacté pour dire « Ah, il y a une formation animée dans la semaine prochaine, est-ce que vous êtes disponible ?» Donc voilà, c'est un phénomène qu'on constate. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à éluder un peu ce genre de propositions et essayer de développer moi-même mes formations ou passer par du I2L, un organisme en qui j'ai toute confiance.
Et Jean-Michel Boulet qui est intervenu donc en début d'année effectivement sur la formation professionnelle. Alors il reste quelques minutes avant la question, enfin quelques secondes avant la question finale. Est-ce que Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur la partie formation?
Oui, on peut. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie formation professionnelle, on va dire dans le initial ou tout au long de sa vie, mais on peut aussi commencer à se former avec de tas d'autres outils ou des ressources en ligne. Il y a des livres, il y a des tas de choses qui permettent de commencer à utiliser le logiciel. Moi, par exemple, j'ai été formé sur des logiciels propriétaires à l'école et au début de mon expérience. Mais après, j'ai tout appris pratiquement sur le tas. Donc, c'est pas impossible. C'est sûr que c'est plus simple, comme on avait déjà utilisé d'autres logiciels. Mais il y a quand même beaucoup de ressources en ligne aussi, quoi.
D'accord. Alors, je suis désolé, Dimitri, mais le sujet du financement pérennité des logiciels, on pourra pas l'aborder, mais par contre, je pense qu'on fera une émission, ou même plusieurs, sur le sujet global du financement des logiciels, et on t'invitera sur la partie, on va dire, logiciel graphique, parce qu'on ne peut pas traiter ça en ce sujet-là en quelques secondes. Pour conclure, chacun d'entre vous, donc, en moins de 2 minutes, quels sont les éléments clés à retenir, enfin, vous souhaitez que les gens retiennent de l'émission du jour, de votre intervention? On va commencer par Dimitri.
Alors, très rapidement, je dirais que faut vraiment insister sur le fait qu'on peut faire du travail professionnel avec des logiciels libres et ne pas s'enchaîner à un éditeur de logiciels privateurs. Je citerai l'anecdote de Adobe qui a coupé tous les comptes de ses produits au Venezuela il y a quelques années. Donc voilà, au Venezuela, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais ils ne peuvent plus utiliser la suite Adobe suite à la politique entre les États-Unis et le Venezuela. Donc voilà, on peut faire du travail professionnel avec des logiciels qui ne vont pas vous enchaîner à un tiers auquel on ne peut pas faire confiance. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Antoine, et c'est aussi pour la conclusion, je pense que dans le logiciel libre, et sur la formation, il y a peut-être un manque de reconnaissance aussi de cette formation, parce que tu parlais de tutoriels gratuits. J'ai pas mal traîné dans les assos du libre, et c'est vrai que les moyens sont plus mis sur du... Enfin, on parle plus de développement logiciel, d'administration système, mais assez peu de formation. Et ça mériterait qu'on en parle un peu plus dans les associations, comme l'April, par exemple. Mais voilà, je crois tu pourras peut-être en dire un mot, Fred.
Écoute, merci Dimitri. Je vais laisser déjà la parole à Antoine.
Oui, alors moi, ce que je trouve bien dans les logiciels libres de création graphique, c'est que déjà, ils utilisent des formats ouverts. Et pour moi, c'est quand même très important, ne serait-ce que pour l'archivage ou pour la capacité à conserver ces fichiers. Parce que Scribus, on peut quand même récupérer le contenu en XML. Et puis Inkscape, c'est quand même un format SVG. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir récupérer le contenu de ces fichiers sans avoir d'être obligé d'acheter un logiciel. Ensuite, je pense que c'est une chose assez importante, c'est qu'utiliser des logiciels libres lorsqu'on fait de la communication, ça permet d'être cohérent lorsqu'on travaille pour des organisations où c'est l'individu qui prime, où on n'est pas en train de travailler pour des entreprises qui font du commerce, par exemple, ou qui vont chercher à faire du profit. Quand on doit créer des documents qui défendent des modèles plus citoyens, solidaires, responsables ou éthiques, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser du logiciel libre. Et puis, dernière chose, je dirais que ce qui est quand même important, c'est que le fait d'avoir ces logiciels libres de création graphique, ça permet totalement de travailler sous GNU Linux, si on est sous GNU Linux.
Donc GNU Linux, on précise que c'est une distribution logiciel libre. On a consacré une émission entière à ce sujet-là avec différentes distributions, Ubuntu, Debian et Mandriva à l'époque, si je me souviens bien. On va laisser la conclusion à Elisa, donc toujours en moins de 2 minutes, les points à retenir.
Oui, alors dans les logiciels libres graphiques, il y a certainement tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire pour l'utilisation de votre besoin de communication visuelle. Et il faut surtout se dire que il y a un logiciel est fait pour une chose, donc n'hésitez pas à les enchaîner. Et prenez patience et puis surtout faites des retours à chacun des projets, comme ça nous pourrons améliorer ces logiciels pour qu'ils s'améliorent.
Bah écoute, merci, c'est une belle conclusion. Donc nos invités étaient donc Antoine Bardelli, Elisa de Castro-Guerra, Dimitri Robert. On a cité plein de logiciels, plein de références. Ils sont sur la page consacrée à l'émission sur april.org et sur causecommune.fm. Et ce qui manque, on va le rajouter tout à l'heure. Antoine nous dit qu'il va tuer le chat. Non, sauvons le chat. Sauvons le chat. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et puis au plaisir de se revoir bientôt en présentiel dans un bar ou ailleurs. Bonne journée. Alors, on va faire une pause musicale. Donc pour cette dernière pause musicale, je crois me souvenir que Isabella avait apprécié cette pause, mais peut-être que je me trompe, elle me confirme. Donc nous allons écouter 4 machines par Dag Z. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Par les studios Tournerif. C'est avec finesse et opiniâtreté que Fred détarte les notes, anti-calcarise les rythmes pour obtenir un résultat impeccable, même à 90 BPM. Faites étinceler vos grooves, reluire vos heavy metal, rehausser vos salsas avec les studios Tournerif.
Nous venons d'écouter avec grand plaisir 4 machines par Dag Z disponibles sous licence Art Libre. J'en profite pour signaler que Dag Z s'occupe d'une compagnie de cirque familial avec notamment sa femme, ses enfants. Cette compagnie de cirque accompagne en fait les enfants dans l'apprentissage du cirque aérien. Le cirque s'appelle Cirque NRZIC. Et le site, c'est cnrz.fr. Mais on mettra les références sur april.org et sur causecommune.fm. Et donc, je salue DAXZ.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous.
Libre à vous. Libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures, annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et qui parmi ses multiples talents assure la régie aujourd'hui de l'émission. La chronique du jour portera sur l'éducation populaire et le logiciel libre avec l'expérience d'Antoine Barlet qui est informaticien chez CLIS21. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour la chronique Le Libre fait sa com d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Antoine Barlet, informaticien généraliste, et on verra tout à l'heure pourquoi nous utilisons cet adjectif, chez CLIS21, une coopérative de services informatiques en logiciel libre, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans Libre à vous, qui fait aussi de l'éducation populaire. Si vous allez sur le site de CLIS21, vous verrez qu'il y a un endroit spécifique où sont référencées toutes les actions, et il y en a beaucoup, en lien avec l'éducation populaire organisée par la coopérative. Donc ce n'est pas du tout anecdotique, c'est un lien très fort, n'est-ce pas Antoine? Bonjour à toi.
Bonjour Ida.
Pourquoi c'est si important pour vous l'éducation populaire? C'est quoi, et c'est quoi pour vous? Parce que je sais que la définition n'est pas unique.
Bon alors l'éducation populaire pour moi c'est avant tout partager du savoir avec les gens qu'on a autour de nous dans un objectif d'émancipation dans la société. Alors, pourquoi je suis attaché à l'éducation populaire? Eh bien, c'est très lié à la coopérative CLIS21, parce que quand j'étais jeune, j'ai voulu savoir un petit peu comment fonctionnait mon ordinateur. Et en fait, j'étais pas vraiment capable de comprendre dans le détail. Et j'ai une copine de classe, en fait, qui m'a parlé de la coopérative CLIS21, donc qui organisait des foires aux installes. Donc la foire aux installs, c'est un endroit où on peut y installer du logiciel libre sur son ordinateur et sous le format d'une initiative d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va partager le savoir avec d'autres et faire en sorte qu'on soit plus capable d'installer du logiciel libre pour, avec les autres sur son ordinateur. Et donc je me suis rendu là-bas et puis ça m'a plu et petit à petit je suis retourné aux différentes foires aux installs et j'ai appris comme ça à installer Linux, à utiliser Linux. Et là, j'ai vraiment pu comprendre comment fonctionnait mon ordinateur.
Mais du coup, tu étais tout jeune, tu parles de copine de classe, tu avais quel âge?
Non, je te dis, c'est pas si jeune que ça, ouais.
Oh, bon, ça va, le lycée, ça va, tu étais encore très jeune. Et ouais,
C'est vrai que c'est une époque où, au lycée, on n'apprenait pas vraiment l'informatique. Hein. Il y a pas si longtemps, ça a un petit peu changé depuis.
C'est pour ça que
tu voulais apprendre l'informatique, il fallait faire un peu par soi-même.
Voilà, c'est exactement ce que tu étais en train de dire. Et c'est pas du tout évident quand on s'y connaît pas du tout de d'apprendre l'informatique par soi-même. Donc les actions de CLIS21 étaient bienvenues. Et chez CLIS21, donc tu t'es retrouvé à travailler finalement pour la même coopérative qui t'a introduit à l'informatique, au logiciel libre. Est-ce que tu t'imaginais de un jour travailler chez CLIS21? Tu l'avais déjà en projet ou c'est arrivé par hasard?
J'imaginais pas vraiment ça, non. C'est devenu plutôt une passion ensuite pour moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens à travers ces foires internes qui m'ont appris plein de choses. Et puis ensuite à travers d'autres groupes d'utilisateurs de logiciels libres aussi. Et donc c'est ces gens-là en fait qui m'ont appris beaucoup de choses petit à petit. Puis un peu plus tard, par la plaisir de mes études, j'avais fait un petit peu d'informatique aussi. Et donc un petit peu plus tard, à une période où la coopérative embauchait, on m'a proposé de rejoindre la coopérative.
Super, donc la boucle est bouclée. Formée grâce aux actions d'éducation populaire de Kiss 21, tu te retrouves à travailler chez Kiss 21. Ça fait environ 2 ans, tu m'as dit. Et pendant notre échange, tu as dit que tu avais fait des cours, tu avais faire une formation ou toute autre chose en musicologie avec un master en musique électroacoustique. C'est rigolo parce qu'on a parlé de tout ça, de ce genre musical tout récemment dans une chronique Le Libre fait sa com. Et pourquoi tu n'as pas souhaité continuer dans cette direction, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as appris lors de ces études qui t'ont quand même été utiles par la suite ou encore aujourd'hui?
Alors un petit peu, mais alors la musicologie à Lille, c'est orienté musique contemporaine. Donc du coup, on étudie beaucoup la musique du XXe siècle. Et c'est vrai qu'au master, un petit peu plus la musique électroacoustique, il y a plusieurs, donc c'est marrant, ouais, que j'ai déjà fait une émission sur la musique électroacoustique. Il y a plusieurs manières de faire la musique électroacoustique. Il y a deux grands courants, en fait, soit de faire la musique avec des sons enregistrés, qu'on vient classer, analyser, assembler, monter, voilà, c'est un peu l'école française. Et ensuite, il y a la musique électronique, donc on vient fabriquer des sons de toutes pièces par synthèse, avec un synthétiseur analogique ou numérique, voire par ordinateur, maintenant c'est beaucoup par ordinateur.
Donc l'informatique était quand même utile pour pouvoir composer ou pour pouvoir étudier aussi ce type de musique, de genre.
Voilà, et c'est surtout en fait pour fabriquer des sons, on a besoin d'un petit peu de programmation quand même. Et donc là, dans le cadre de ces études, on utilise un petit peu un logiciel qui s'appelle Pure Data, qui est un très bon logiciel libre.
En plus,
c'est un langage qui n'est pas aussi puissant que d'autres langages généralistes, mais qui a un gros avantage, c'est d'être visuel. Donc ça permet de pouvoir se rendre compte des procédures pour écrire des sons, pouvoir visualiser en fait les procédures de création des sons.
Et donc c'était utile pour... C'était utile, tu m'as dit, pour les personnes de ton cours qui n'étaient pas forcément informaticiens. C'était sûrement un logiciel plus intuitif finalement pour eux. Et tu m'as dit à un moment que tu aurais souhaité en fait te spécialiser dans l'art numérique. Tu peux m'en parler un peu?
Oui, j'en ai fait un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Kiss 21, je faisais un petit peu d'art numérique. Et bien simplement parce que en apprenant à fabriquer des sons comme ça avec ce logiciel, Pure Data. Alors Pure Data, c'est un logiciel qui permet de fabriquer des sons, mais en temps réel. Et donc ça intéresse beaucoup les artistes en art numérique, parce que de plus en plus les artistes s'intéressent à l'interaction, enfin pas seulement à l'image, au son, mais aussi aux possibilités d'interactivité du spectateur, ou voire pour l'homme. Et donc c'est dans ce cadre-là que c'est de plus en plus courant en fait que les artistes font appel à des techniciens pour écrire les interactions entre le spectateur et son œuvre, ou entre...
Mais du coup c'est
pour créer aussi parfois.
Mais c'est un besoin très spécifique, parce que j'imagine que chaque artiste finalement a en tête son projet sonore, donc finalement le technicien qui l'aide à réaliser son projet fait du sur-mesure, c'est bien ça?
Ah oui, c'est même du sur-mesure pour chaque œuvre. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Et c'est ça qui est un peu excitant aussi hein, dans l'art numérique.
Et quand on parle de sur-mesure, ça me fait venir en tête une expression qui a été utilisée par ton collègue François Poulain lors d'une interview qu'on a fait en 2020. Il se définissait comme un artisan du web. On n'a pas une politique de l'offre, il nous disait, parlant de Kiss 21, on n'a pas un produit qu'on peaufine bien et qu'on essaie de refiler le même à tout le monde. On part du principe que c'est à nous de s'adapter à son besoin et pas l'inverse. Est-ce que tu te sens, toi aussi, artisan du web? Est-ce que tu te retrouves dans cette définition?
Ouais, c'est vrai que l'artisanat, c'est une belle image. Hein. François, il a ce truc de trouver de belles images comme ça pour... c'est vrai, oui, nous, on part du problème d'un usager, quelque chose qui souhaite réaliser dans le cadre de son activité, et on regarde s'il y a des solutions en logiciel libre pour faire ce qu'il veut faire. S'il y a des solutions, du coup, on le met en place. Donc là, dans ce cadre-là, on fait de l'hébergement, de la maintenance, de logiciel libre qui existe déjà. Et si cette solution-là n'existe pas, en logiciel libre, eh ben, on la développe. Donc là, on fait du développement. Et effectivement, c'est un peu artisanal, oui, parce qu'on n'est pas spécialisé, en fait, dans un domaine en particulier qui pourrait permettre une industrialisation, en quelque sorte, de notre travail. Et donc, du coup, on est tout le temps en train de, comme un artisan, de s'adapter à des demandes très spécifiques.
Et c'est pour ça que quand on a échangé la première fois, tu t'es défini un informaticien généraliste, entre guillemets, justement parce que vous n'avez pas une spécificité, vous vous adaptez aux besoins de vos usagers et j'imagine que c'est à la fois une difficulté, mais c'est à la fois aussi une belle satisfaction. Ça résume bien votre logique de libriste et des personnes qui essayent d'enrichir les autres à travers les actions d'éducation populaire. Antoine, malheureusement notre temps est presque fini. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te souhaite une très bonne continuation pour tous tes projets, pour les projets de CLIS 21. Merci beaucoup.
Merci.
C'était donc la chronique Le Libre fait ça comme d'Isabella Vanni avec donc l'expérience d'Antoine Barlet, informaticien chez CLIS 21. Donc CLIS 21, c'est clis21.com, le site web, et je vous encourage aussi à visiter le site benevalibre.org, une solution libre de valorisation du bénévolat développée notamment par CLIS 21 avec un certain nombre de partenaires dont l'April. Nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, on parlait tout à l'heure du groupe sensibilisation de l'April animé par ma collègue Isabella. Et bien là, le groupe sensibilisation se réunit à distance jeudi 3 juin à partir de 17h30. Hein, toutes les informations sont sur april.org pour rejoindre cette séance qui se déroulera à distance. En juin, il va y avoir les élections régionales et départementales, l'occasion de sensibiliser les candidats et candidates aux enjeux de liberté informatique et notamment le logiciel libre. Donc nous proposons aux candidats et candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer leur engagement. Si elles sont élues, à mettre en place une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans leur collectivité. Nous invitons bien sûr toutes celles et ceux qui le souhaitent à contacter candidates et candidats, particulièrement les têtes de liste pour les régionales, pour les encourager à signer le pacte du logiciel libre et en profiter de l'occasion pour les sensibiliser aux enjeux de liberté informatique. C'est assez pratique en ce moment, par exemple à la sortie des écoles, on reçoit plein de tracts, et bien c'est l'occasion de parler du pacte du logiciel libre. Toutes les informations utiles sont sur le site candidat.fr, candidat avec un S. Cette semaine, c'est la teuf, la grosse teuf. Non, en fait, c'est la fête de la radio, les 100 ans de la radio, 40 ans de libération des ondes. Donc le site, c'est fêtedelaradiotoutattaché.com. L'April est particulièrement fier de participer à cette belle aventure de radio cause commune, la voie des possibles. Nous considérons que c'est une action en effet très importante pour la promotion et la défense des libertés informatiques, notamment parce qu'elle permet de toucher un très large public grâce à la diffusion radio. Nous avions proposé aux personnes éventuellement qui seraient intéressés de participer à un direct, en tout cas d'assister à la mise en place et d'assister au direct pour cette fête de la radio, donc à l'occasion de cette émission. Nous n'aurons pas eu de candidature, peut-être parce que c'est l'horaire de 15h30 qui peut poser souci. En tout cas, cette proposition est ouverte. Si vous souhaitez à un moment ou un autre venir à la radio pour voir comment on se met en place, comment se passe le direct, n'hésitez pas à nous contacter sur april.org ou sur causecommune.fm. Vous pourrez assister à l'émission. Nous terminons a priori le 29 juin et nous reprenons sans doute tout début septembre. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez et assister à l'émission. Qui dit la fête dit la musique, et il sera de retour. Et oui, ça fait des longs mois qu'on l'attend tous. Le sélectionneur l'a enfin repris. Je ne parle pas évidemment de Karim Benzema, mais je parle de Mehdi. DJ Mehdi sera avec moi demain, mercredi 2 juin, à partir de 21h en direct sur Cause Commune pour une soirée musicale. Donc c'est une antenne libre musicale. Vous pouvez nous rejoindre sur le salon web causecommune.fm, bouton de chat et salon antenne libre. Mehdi mettra le son et en fonction de vos propositions, de vos échanges, on fera évoluer la musique. Donc ça commence à 21h, sans doute jusqu'à 22h, voire jusqu'à 22h30, on va le pousser un petit peu. Et donc c'est mercredi 2 juin à partir de 21h sur Cause Commune. Tous les autres événements, vous les retrouverez sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors notre émission se termine. Cette 108e émission a été mise en onde par ma collègue Isabella Vanni. Merci Isa. Merci également à Elodie Daniel Giraudon, bénévole qui va monter le podcast. Merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui va mettre en ligne sur le site de la radio. Merci à Adrien Bourmeau qui va découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouvez sur notre site. Ah, je remercie évidemment nos invités, j'allais les oublier. Donc Emmanuel Reva pour la chronique, Antoine Barlet pour la deuxième chronique. Et pour le sujet principal, Elisa de Castroguera, Antoine Bardelli, Dimitri. Robert, je salue également Emma qui fait un petit stage d'un mois dans à la radio et qui est en régie actuellement. Vous retrouverez sur le site web de l'April, april.org, toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles, notamment cette semaine donc de fête de la radio. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 juin 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'auto-hébergement, c'est-à-dire fournir soi-même des services internet, courriel, partage de documents qu'on utilise. Nous, on se retrouve demain mercredi, donc 2 juin à 21h, donc avec Mehdi pour une spéciale Le Musical. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct pour Libre à vous mardi 8 juin 2021. Et d'ici là, portez-vous bien.